France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Il y a quelques jours, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, annonçait vouloir un référendum sur l'immigration après avoir publié une nouvelle circulaire durcissant les conditions de naturalisation. Une vieille rengaine qui entraîne chaque fois des débats houleux, diffusant des lots de contre-vérités, d'imprécisions, parfois même de fantasmes. Alors comment aller au-delà des idées préconçues, des préjugés? Comment réussir à différencier ce qui relève de la perception de ce qui relève de la réalité? Quel vocable doit-on user pour définir et tenter d'expliquer ce phénomène? Pour nous éclairer ce soir, un invité, François Héran, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes démographe, sociologue, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Migration et Société entre 2017 et 2025. Vous dirigez par ailleurs en parallèle l'Institut Convergence Migration que vous avez fondé en 2017 et vous avez donné le jeudi 15 mai dernier votre leçon de clôture intitulée « Face à l'immigration, le savant et le politique ». Merci d'être avec nous ce soir dans Questions du soir. Et avant d'en arriver à l'actualité, François Héran, une question pour être bien certain de savoir d'où vous parlez. Est-ce que vous êtes toujours chantre de l'immigration heureuse?
Oui, c'est une expression qu'a utilisée le Figaro magazine pour, résumer mon approche des migrations. Immigration heureuse, c'était l'expression d'Alain Juppé dans une campagne électorale pour de primaire du centre de la droite, je crois. Et moi, j'ai toujours expliqué de longue date qu'on ne peut être ni pour ni contre l'immigration, et qu'il faut faire avec. Faire avec, ça ne veut pas dire qu'on est pour, contrairement à ce qu'on a raconté, c'est qu'il est difficile de faire sans. Et donc, il faut regarder les faits, établir les faits, quelle est l'ampleur de l'immigration, quelle place elles occupent dans la société, je dirais même quelle place elles occupent dans nos vies. Et c'est ça le travail, la première mission du chercheur sur l'immigration, avant toute considération idéologique, je dirais.
Le travail du chercheur, le travail du savant même, pour reprendre le titre de votre leçon de clôture, c'est les faits, juste les faits, notamment et particulièrement sur l'immigration?
Alors, évidemment, tout le monde sait que les faits eux-mêmes sont construits, il faut les établir, c'est un travail considérable. Je rappelle que quand même, on connaît maintenant la réalité de l'ampleur des migrations beaucoup mieux qu'il y a 20 ans ou 30 ans. On a des organismes statistiques extrêmement solides, il y a des directives européennes, qui sont des lois, qui obligent les États à envoyer à Eurostat l'organe statistique de la Commission européenne, d'envoyer des données très très fournies sur l'asile, la demande d'asile, son traitement, mais aussi sur l'immigration. L'INSEE a fait énormément de progrès sur la connaissance des migrations, et puis on a les compilations mondiales de l'ONU qui sont très intéressantes aussi. Donc on a maintenant un spectre de connaissances qu'on n'avait pas il y a 20 ans, 30 ans, et donc un certain nombre de choses un peu extravagantes qu'on pouvait impunément raconter autrefois, ça devient quand même très difficile maintenant.
Le savant, donc, c'est vous. Le politique, écoutons-le un instant à travers la voix du ministre de l'Intérieur, nouveau président des Républicains, Bruno Retailleau. Il s'exprimait sur la chaîne CNews le 13 mai dernier.
Je pense que les capacités d'accueil de la France sont saturées. C'est pour cela que je dis que l'immigration, ça n'est pas une chance pour la France dans ces conditions-là, parce que j'ai jamais cru à l'immigration zéro. Faut être en Corée du Nord, donc c'est stupide. Ce que je veux simplement dire, c'est que prenons un peu de hauteur et de recul. En Allemagne, je déjeunais avec mon homologue, le ministre allemand de l'Intérieur, et je voyais les déclarations du Premier ministre travailliste, donc de gauche, si j'ose dire, anglais. Les deux, les Allemands, croyez-moi, veulent mener une politique migratoire très ferme, et les travaillistes britanniques, idem.
Bruno Retailleau souhaite un référendum sur le sujet de l'immigration. François Héran, faire appel au peuple pour trancher cette grande question, ces grandes questions, est-ce que, selon vous, c'est une bonne idée?
Alors, je ne pense pas, parce que c'est une affaire beaucoup plus compliquée, trop compliquée pour pouvoir être condensée dans un oui-non. Et puis, il faut comprendre, évidemment, l'idée de Bruno Retailleau, c'est de transformer en référendum les résultats des sondages. Alors, c'est vrai que quand on regarde les sondages non seulement réalisés en France, mais partout en Europe, et d'ailleurs aussi aux États-Unis, hein, ce sont les instituts de sondage américains qui ont donné l'exemple, des questions du genre, pensez-vous que les immigrés ne font pas assez d'efforts pour s'intégrer? Pensez-vous qu'ils sont trop nombreux? Pensez-vous qu'on ne vit plus dans notre pays, on ne se sent plus de chez soi dans notre pays, etc. Quand on pose ce genre de questions très, très simples, très simplistes, il y a en gros deux tiers des gens, et parfois même davantage, qui disent « Ah ben non, il y en a trop, ils ne font pas d'efforts pour s'intégrer, on ne se sent plus chez nous, etc. » Et après, le problème, c'est que quand vous posez des questions circonstanciées, par exemple, bon, il y en a trop, mais où est-ce qu'il y en aurait trop ? Dans le nettoyage, dans le transport, dans la fabrication industrielle, dans etc., etc. Alors là, ça a été fait notamment en Angleterre, les réponses diminuent très fortement. C'est comme les fonctionnaires, tout le monde voudrait en réduire le nombre, mais dans quel secteur ? La santé, la police, l'éducation, alors là, tout change. Chaque fois qu'on pose des questions simplistes dans les sondages, on a des réponses simplistes, et quand on pose des questions circonstanciées, on a des réponses circonstanciées. C'est pour ça qu'à mon avis, la pensée binaire oui-non ne peut pas, à mon avis, permettre de trancher une affaire aussi complexe que l'immigration.
Mais on peut peut-être imaginer, alors, si je tire le fil de ce que vous dites, d'autres formes pour tenter de faire appel au peuple. Est-ce qu'il faut écarter le peuple, je veux dire, de ces questions-là ? Est-ce que l'immigration appartient aux experts, aux savants et aux responsables de politique publique ?
Absolument pas. Et d'ailleurs, moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent que le peuple se trompe systématiquement sur l'immigration. C'est vrai que quand on demande à la population d'évaluer le pourcentage d'immigrés en France, il y a une forte surestimation. Mais parce que les gens incluent la deuxième génération, parce qu'ils incluent les domiens, parce que c'est difficile... Mais je ne pense pas que la statistique spontanée puisse se substituer à une statistique officielle et bâtie correctement. Non, il faut effectivement, à mon avis, on ne peut pas juguler l'immigration, mais il faut la réguler, ça je suis d'accord. Mais pour cela, pour avoir une vraie politique migratoire, il ne faut pas raconter n'importe quoi comme le fait M. Retailleau. Quand il dit « nous sommes débordés, nous n'avons plus les capacités d'accueil », qu'est-ce que ça veut dire ? La vérité est tout autre. Vu notre population et vu notre PIB, notre richesse, nous ne sommes absolument pas aux avant-postes de l'immigration en Europe, mais pas du tout. Nous sommes pour le surcroît de population qu'introduisent les nouveaux titres de séjour chaque année, nous sommes au 15e rang, hein, 1,5% de la population en plus chaque année. Quand on regarde la proportion d'immigrés dans la population, le résultat des entrées, des sorties, des décès, de ce qui s'est accumulé depuis des décennies, nous sommes au 25e rang, donc dans le monde occidental. Donc, or, M. Retailleau nous fait semblant de croire, parce que je pense que, en réalité, il ne lit même pas les publications du ministère de l'Intérieur, qui sont très très claires là-dessus, qui reproduisent les données de l'OCDE, qui sont absolument claires. Donc, il nous présente la France comme étant débordée, nous sommes débordés, c'est ce qu'il a expliqué un jour, trop c'est trop, etc. Et sans aucun fondement. Les capacités d'accueil de la France, ces capacités structurelles, elles sont très fortes. Maintenant, il faudrait réfléchir aux capacités qui, elles, sont politiquement déterminées et construites. L'hébergement, le travail d'intégration, d'alphabétisation, etc. Mais là, on a des moyens qu'on n'a pas beaucoup de moyens par rapport à l'Allemagne. Si vous regardez les lois de finances de tous les pays européens, que vous regardez quelles sont les sommes, quel est le nombre de personnes qui sont affectées au traitement de la migration. Nous sommes à 3000 personnes, peut-être au grand maximum en France, quand on ajoute les préfectures, l'OFPRA, la CNDA, etc. Et en Allemagne, c'est plus de 6000. Donc, il faut réfléchir à des capacités politiques d'accueil et voir aussi ce qui se passe par rapport à ces capacités structurelles qui sont notre population et notre richesse.
Il disait aussi, Bruno Retailleau, lorsque l'on l'entendait un peu plus tôt dans cette émission face à Sonia Mabrouk, que dans le fond, l'immigration n'est pas une chance pour la France. Alors, c'est un jugement, c'est une déclaration normative, plus qualitative. Est-ce que néanmoins, on peut réagir en tant que savant sur ce point-là, François Héron ?
C'est un jugement très grave. C'est grave de proférer des assertions de ce genre, car en fait, toutes les études sérieuses qui ont été menées montrent, un, que nous avons besoin de l'immigration dans des quantités de métiers. On s'en est rendu compte pendant la pandémie de Covid. Pendant la pandémie de Covid, on a eu 15 jours de lucidité, où même certains ministres, comme Marlène Schiappa, se sont dit, tiens, ces immigrés jouent un rôle important dans ce qu'on appelle les métiers essentiels, ceux qui permettent à la société de continuer d'être soignée, transportée, prise en garde, protégée, etc. Oui, ils sont absolument nécessaires, c'est évident. Puis par ailleurs, la démonstration a été faite à plusieurs reprises qu'ils ne coûtent, il n'y a pas de surcoût sur la société. Ils sont aussi consommateurs, producteurs, contribuables, cotisants, même s'ils le sont moins par tête d'habitant, si j'ose dire, que le reste de la population. Mais comme ils sont concentrés dans les âges actifs, très fortement, la pyramide des âges n'a pas eu tout la même forme. Tout ça se compense et finalement le coût de l'immigration pour la société française en fait est neutre. Et je sais bien que toutes sortes de consultants de improvisent des calculs en disant ça coûte 54 milliards, c'est le chiffre que sans cesse arbore Marine Le Pen. Mais ce sont des procédés absolument complètement critiqués par les économistes, consistant à dire on va prendre en compte la deuxième génération. Alors si, par exemple, vous avez 13% d'enfants d'immigrés dans l'éducation nationale, ça fait 13% du budget de l'éducation nationale. Et on répète cette opération de ministère en ministère, de fonction en fonction, ce qui est complètement absurde, parce qu'en fait, un quart de la population vivant en France est soit immigrée, soit liée à l'immigration. Et ça monte à un tiers quand on remonte encore d'une génération. Donc calculer ce que coûte un tiers de la population aux deux tiers restants, ou un quart aux trois quarts restants, c'est une opération qui n'a strictement aucun sens.
La voix, François Héron, d'Hakim El-Khaoui, c'est le fondateur du cabinet de conseil Volantia, président du club 21e siècle, expert associé de Terra Nova. Il fait le lien justement entre immigration et effet positif du point de vue économique.
Aujourd'hui, 17% des médecins spécialistes sont diplômés hors de France. Et 10% des médecins spécialistes viennent du monde arabe. De trois pays d'ailleurs, l'Algérie dont on parle beaucoup. Sans les médecins algériens, l'hôpital public s'arrête en fait. La Tunisie, la Syrie. Notre exemple, la France est très fière de sa cuisine. Qui fait la cuisine ? Des étrangers, des immigrés, 22% des cuisiniers, plus de 50% en Ile-de-France. Quand le bâtiment va, tout va. Qui c'est qui construit, qui rénove nos bâtiments ? Des étrangers. On monte à 50-60% là aussi en Ile-de-France, et on est entre 20 et 30% suivant les métiers, dans l'ensemble de la France. Bon. Je parle pas des agents d'entretien, je parle pas des femmes notamment qui prennent en charge les personnes âgées, etc. Donc, en fait, tout le bas de la pyramide socio-professionnelle. Et puis, de plus en plus de métiers très qualifiés, j'ai parlé de la santé, je pourrais parler aussi de l'informatique, le digital. 15% des ingénieurs en France, informatique, sont étrangers. Donc, vous dites, on renvoie, Éric Zemmour voulait déporter les étrangers. Très bien, la France s'arrête dans la seconde.
Je voudrais aborder avec vous, François Héron, l'approche économiciste pour parler de l'immigration, celle que vous avez vous-même utilisée avant d'entendre Hakim El-Khaoui, et celle d'Hakim El-Khaoui lui-même. L'argument, en gros, c'est de dire la France a besoin d'immigrer parce que l'économie française a besoin d'immigrer. Cela ne satisfait ni les personnes qui sont, je caricature, contre l'immigration, parce qu'ils vont dire, dans le fond, c'est un problème socio-culturel, l'immigration, ce n'est pas un problème économique, et cela ne satisfait pas non plus les gens qui sont très très en soutien de l'immigration, parce qu'ils vont dire on réduit ces personnes à leur fonction économique. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que c'est la bonne approche ?
Alors, je voulais d'abord dire que Hakim El-Khaoui, c'est un des meilleurs experts privés de la question. Et ça fait des décennies qu'il travaille dessus. Il faut l'écouter attentivement. Il y a plusieurs approches de la migration et les politiques migratoires elles-mêmes, elles ont varié au cours du temps. Il y a eu des politiques démographiques. Dans les années 20, dans l'entre-deux-guerres, on avait la situation démographique était telle qu'on disait il faut faire appel à l'immigration. Et c'est pour ça qu'en 1927, on a eu la loi de naturalisation la plus généreuse qu'on ait jamais eue, puisqu'il suffisait d'être là depuis 3 ans hein, pour postuler la nationalité française. On a eu des périodes où c'était les entreprises qui recrutaient. Et c'était les périodes de reconstruction économique, de rattrapage économique. Et là, on a laissé, après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi après la Première, on a laissé les entreprises libres d'aller recruter qui elles voulaient, où elles voulaient. Et puis, maintenant, on est dans une optique qui est non plus une politique utilitariste qui peut être soit économique, soit démographique, mais une politique identitaire. Hein. Préservons l'identité, c'est comme ça qu'on va définir. Et voilà. Mais il y a aussi une troisième dimension qui est fondamentale, c'est le droit international. Une politique juridique, en quelque sorte. Car en fait, une bonne partie, la grande majorité des migrants qui entrent en France, qui s'intègrent en France, le font parce qu'ils en ont le droit. Alors, c'est pas un droit, c'est un droit très, très conditionné, être extrêmement surveillé, mais globalement, à la base, il y a un droit. Et c'est ce droit que voudrait supprimer, effectivement, tout un pan du spectre politique français, à droite et à l'extrême droite. Et là, on a des garde-fous. Hein. Ça, c'est terrible, mais il y a des conventions internationales. Il y a la Convention de Genève pour les réfugiés, la Convention des droits de l'enfant pour les mineurs, etc. Et puis, on a comme ça des règles aussi sur le regroupement familial qui ne sont pas coercitives. Hein. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur le regroupement familial est très complexe. C'est pas simplement une automaticité. Donc, je pense que toutes ces constructions-là, sans compter la vigilance exercée par le juge des libertés et de la détention, par le Conseil constitutionnel, par la Cour des droits de l'homme, par le Conseil d'État, toutes ces choses-là, eh bien, ce sont des garde-fous de la démocratie que certains voudraient faire sauter. C'était totalement le programme de Vauquiez. Il avait utilisé l'expression « faire le grand ménage » et se passer de tous les corps intermédiaires, de toutes les institutions, qu'elles soient nationales, internationales, etc. Et moi, je suis désolé, mais enfin, j'ai aussi une culture juridique assez poussée, et je pense que les garde-fous de la démocratie font partie intégrante de la démocratie.
Mais je reviens tout de même sur cette approche économique. Est-ce qu'elle vous semble bonne, pertinente, pour convaincre ceux qui ne le sont pas, et même simplement pour parler, décrire la trajectoire, la vie de ces personnes en situation de migration?
Et la dimension économique est absolument essentielle, et donc les arguments économiques pour faire en sorte que l'immigration puisse se développer en France, ce sont très bons arguments, mais ça ne doit pas nous faire oublier aussi l'aspect juridique. Les Américains, les chercheurs américains disent... interest-based et rights-based, c'est-à-dire des ressorts qui sont fondés sur l'intérêt, sur le calcul, etc., et des ressorts qui sont fondés sur les droits. Mmh. Eh bien, l'immigration relève des deux. Et par exemple, le refuge, le droit d'asile, c'est pas interest-based, c'est rights-based. Est-ce que nous sommes capables de respecter les droits qui ont été tous définis essentiellement après la Seconde Guerre mondiale, après la défaite du nazisme, du fascisme, etc. Et je suis toujours effaré de voir que certains, avec une incroyable désinvolture, voudraient défaire tout cet édifice qui a été laborieusement construit après-guerre.
Est-ce qu'une science des migrations vous paraît envisageable, possible, souhaitable, François Héron?
Alors, science des migrations, c'était une expression qu'avait utilisée Yves Lévy, le président de l'INSERM, quand j'avais commencé à élaborer mon projet. Ce serait évidemment très ambitieux, parce qu'en réalité, il faut quand même, et l'ambition c'est cela, c'est ce que j'ai essayé de faire dans l'institut que j'ai créé, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mes cours et dans mes séminaires. Il faut associer plusieurs disciplines, parce que la migration, c'est par définition un phénomène géographique, un phénomène juridique, c'est un phénomène économique, mais pas uniquement, bien sûr. C'est aussi un phénomène très largement religieux. Les minorités religieuses ont beaucoup migré de par le monde. Et je rappelle qu'on a fait allusion tout à l'heure dans le débat que j'ai écouté, que le christianisme est une religion orientale qui a migré. Hein, et que l'islam est une religion judéo-chrétienne, quand on regarde comment elle a été fondée et concoctée. Et donc, se réclamer du judéo-christianisme pour écarter l'islam, c'est historiquement et théologiquement, mais totalement absurde. Ça démontre une très grande inculture du sujet. Hein. Donc, vous voyez qu'il faut avoir aussi une culture théologique pour traiter des questions migratoires. Et c'est en réunissant et en croisant tous ces points de vue qu'on arrive à progresser dans la science de l'immigration, comme des migrations internationales, comme j'ai essayé de le faire pendant ces 8 dernières années.
Parmi les grandes constructions politiques, médiatiques que vous tentez de remettre en cause, il y a celle qui distingue la migration internationale de la migration interne. Pourquoi justement vous vous attaquez à ce schéma-là? Est-ce qu'il est faux, ou est-ce qu'il faut mieux s'en approcher, mieux l'effleurer pour comprendre ce qu'est véritablement, profondément même, une migration?
Alors, les géographes s'intéressent de longue date à la migration interne, c'est-à-dire interne à un pays, mais c'est vrai que la plupart du temps, il y a une séparation du travail, c'est les géographes qui s'intéressent à l'immigration interne et les autres disciplines à la migration internationale. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez les grands géants démographiques, la Chine, l'Inde, le Nigeria, le Brésil, ont très très peu d'immigration, mais souvent pas plus de 1% d'immigrés. Ce sont des pays très fermés, et les personnes de ces... Ils ont également, les Chinois ou les Indiens, ont très peu d'émigration. Bien sûr, leurs diasporas sont très nombreuses, apparemment, dans le monde, mais en réalité, par rapport aux 1,7 milliard habitants de base, c'est très peu. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un veut améliorer son sort à l'intérieur de ses pays, il a recours à la migration interne. Mmh. Et d'ailleurs, il se trouve que la Chine a longtemps traité et continue de traiter sa migration interne comme une migration étrangère, avec des permis obligatoires. Il y a une migration, un exode rural illégal, avec des enfants non scolarisés parce qu'ils ne sont pas reconnus dans leur nouvel habitat, etc. Et donc, il faudrait pouvoir, dans l'idéal, mais c'est compliqué, réunir des études à la fois sur la migration interne et internationale. Mais le fait que ces plus gros pays au monde aient très très peu d'immigrés, ou parfois souvent très peu d'immigrés, fait que ça fait chuter la moyenne de l'immigration dans le monde. Et c'est pour ça qu'on a seulement 4% de la population mondiale qui a migré, ce qui peut paraître très peu vu l'importance qu'on donne à ce problème. Évidemment, quand on regarde les pays occidentaux, là on arrive à 8-9% d'immigration, mais c'est un phénomène très très ancien. On ne voit pas comment il pourrait disparaître. Et ce sur quoi j'insiste beaucoup, et je reviens, M. Retailleau, c'est que la migration internationale, depuis 2000, n'a cessé de progresser dans le monde. Plus 74% en 25 ans. Dans l'ensemble de l'espace économique européen, plus la Grande-Bretagne, plus 100%, c'est-à-dire un doublement. En France, 50%. Donc on a une poussée qui est forte, qui est nettement moindre que ce qu'on observe dans le reste de l'Europe occidentale, qui est inférieure à la moyenne mondiale. Mais l'idée est que cette poussée mondiale, on va pouvoir la retourner. On va pouvoir finalement réaliser une réduction drastique de l'immigration. Il suffira d'être ferme. On sera très ferme, on sera fermement ferme. Hein. Et comme ça, on va pouvoir renverser la courbe, inverser la courbe. On va pouvoir écarter... Et Bruno Retailleau disait, mais vous voyez, mes collègues allemands, européens, ils sont d'accord avec moi, même s'ils sont de gauche. Mais je ne vois pas comment une entente européenne pourrait repousser cette poussée mondiale de l'immigration, sauf à penser que finalement, ces gens-là iront chez le voisin. Qui semble peu réalisable.
Sur ce lien justement entre savoir et politique, je voudrais vous faire entendre la voix de Catherine Witold-Wenden, politiste spécialiste des migrations internationales. Elle était l'invitée l'autre soir dans cette même émission et parlait de migration.
Moi, je pense qu'il faut dialoguer parce qu'ils sont dans leur monde, si j'ose dire. Hein. Parce que d'une part, de plus en plus, les décideurs dans les ministères considèrent qu'on est des islamo-gauchistes, wokistes, etc. Donc il y a une idée complètement fausse du monde universitaire. Souvent, ils n'ont pas fait les mêmes formations. Beaucoup, parmi les gens qui sont en position de décision dans les ministères, ont fait plutôt des grandes écoles, alors que les chercheurs aussi, parfois, en ont fait, mais viennent aussi du monde universitaire. Donc, il y a une sorte de fracture qui n'existe pas à l'étranger parce qu'ils ont tous fait l'université, si j'ose dire. Ça, c'est un deuxième élément. Et puis, il y a une méfiance réciproque qui s'est creusée. La parole du chercheur n'est pas considéré comme une parole fiable parce qu'il croit qu'on a des biais qui seraient liés au fait qu'on peut fréquenter ou pas le monde associatif. Et ça, je crois que c'est très très inquiétant avec des conséquences sur la prise de décision.
8 ans, vous le disiez, François Héran a prodigué cours et leçons au Collège de France sur la question de l'immigration. Est-ce que vous avez réussi à dépasser les écueils établis par Catherine Witold-Wenden justement pour tenter de nouer des conversations, des dialogues avec les responsables politiques et tenter de les éclairer eux aussi sur le sujet de l'immigration?
Alors, d'une part, j'ai invité des dizaines et dizaines de chercheurs dans mes séminaires hein, qui sont une partie très importante. Tout ça est visible sur le site du Collège de France et il y a des gens très très intéressants qui ont été invités, y compris d'ailleurs d'anciens hauts fonctionnaires, d'anciens directeurs de la population et d'immigration, par exemple. Catherine Witold-Wenden a raison, il faut évidemment faire en sorte que cette coupure disparaissent. Il faut faire aussi en sorte que les murs qui séparent les disciplines ne soient pas des murailles, mais simplement des murets, comme je le disais dans ma leçon de clôture. Moi-même, j'ai essayé, c'est très difficile, de présenter mes travaux et mes données au plus haut niveau.
Qu'est-ce qui est difficile?
Ben, je pense que l'an dernier, par exemple, dans toute la longue discussion de la loi Darmanin, si j'additionne tous les députés et sénateurs auxquels j'ai eu l'occasion de présenter, mais vraiment sérieusement, avec tout le temps nécessaire, mes données, il y en a 60, 70, quelque chose comme ça. Et de temps en temps, je retrouve quelques-uns de mes arguments répercutés repris dans les débats. Mais je vais vous raconter deux histoires. J'ai pu présenter à la demande du directeur de cabinet du président de la République toutes mes données pendant une heure ou deux. Je les ai laissées. Une semaine après, j'ai un mot extrêmement courtois disant « Écoutez, j'ai montré ça au président. Il a été extrêmement intéressé. » Et puis ensuite, plus rien. Donc, j'en conclus qu'au plus haut niveau de l'État, on connaît quand même l'essentiel des données, mais qu'on n'ose pas en parler parce qu'on poursuit d'autres objectifs.
Et une deuxième anecdote, vous disiez en quelques mots.
Eh bien, j'avais fait une tribune dans Le Monde sur la circulaire Retailleau, et puis au dernier moment, Le Monde m'a dit « Mais écoutez, M. Bayrou vient d'évoquer la submersion migratoire, est-ce que vous pourriez rajouter un paragraphe ?» Bon, alors je l'ai fait et j'ai terminé en disant que c'était quand même assez déplorable de voir le Premier ministre réutiliser ce vocabulaire. Et la tribune était parue depuis à peine une heure, dring dring, M. Bayrou me téléphone. Le Premier ministre m'appelle et me dit « Écoutez, je suis d'accord avec l'essentiel de ce que vous dites, mais tout de même la dernière phrase, est-ce que vous m'avez bien lu, bien entendu, etc. » Donc il était piqué au vif. Et là, je me suis dit, François, après tout, ce que tu fais n'est pas totalement inutile si même le Premier ministre prend la peine de t'appeler pour essayer de te répondre. Mais je persistais, évidemment, dans mon opinion. C'était bien un vocabulaire d'extrême droite qui avait été repris par le Premier ministre.
Pour se tourner vers les faits, en tout cas, votre leçon de clôture face à l'immigration, le savant et le politique. Merci beaucoup, François Héron, d'être venu ce soir dans Questions du soir.
Je précise juste que cette leçon existe en audio, mais elle sera bientôt disponible en vidéo sur le site du Collège de France.
Possible donc de l'entendre et de la voir. Merci encore.